إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 28 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Iqtida al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat ashab al-Jahim. Et donc le thème du livre de façon générale c'est à propos de l'interdiction d'imiter les gens de l'enfer. L'interdiction d'imiter les gens de l'enfer, peu importe qui ils sont, mais en particulier les juifs et les chrétiens. Et pourquoi en particulier les juifs et les chrétiens? Parce que c'est ceux qui sont les plus proches des musulmans parmi les gens des différentes religions. Et étant donné qu'ils sont les plus proches, les musulmans ont tendance à vouloir les imiter et à vouloir essayer de leur ressembler, puisqu'ils ont vécu avant nous. Ils étaient là avant nous et ils ont reçu des livres avant nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette raison-là qu'il nous a même avertis de ne pas les imiter, parce qu'il a dit, vous allez suivre les gens qui vous ont précédé avant vous, étape par étape, pas à pas. Même si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre. Et les sahaba ont demandé, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens au messager d'Allah? Il a dit, qui d'autre? Qui d'autre? Donc, ça c'est le thème du livre de façon générale. Et quand on parle de l'imitation des gens de l'enfer, c'est pas juste de les imiter dans leur manière extérieure, mais également, et plus important encore, dans leur croyance. C'est-à-dire que de ne pas les imiter dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses, hein, puisque c'est dans ça qu'ils se sont égarés en premier. Et donc, on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant, et là, le cheikh, il est en train de nous donner des bases, des principes par rapport à cette question. Et il nous dit que l'interdiction des kuffars, elle est mentionnée dans plusieurs points dans le Coran. Et là, il est en train d'expliquer un des versets dans le Coran justement où il y a l'interdiction de ressembler aux mushrikin. Et c'est le verset 69 dans Surat At-Tawbah. On l'a lu au dernier cours. Inch'Allah, on va le relire encore pour savoir, ou pour vous aider à savoir un peu où est-ce qu'on est rendu. Parce qu'on a tellement dit de choses sur ce verset, puis on l'a tellement expliqué en détail que ça se peut que maintenant on est tellement rendu dans des points spécifiques que vous n'allez pas être capable de savoir exactement de quoi on est en train de parler. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il explique et il rentre à fond dans les questions. Le verset, c'est le verset 69, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ce qui signifie en français, et il fut de même de ceux qui vous ont précédé. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. et ils jouirent de leur lot. On a expliqué ici que le lot, c'est-à-dire leur portion dans la dunya, qu'est-ce qu'Allah leur a donné dans la dunya, et ça peut aussi être leur religion, hein. Donc ils jouaient de leur religion en ce bas monde et de leur portion dans ce bas monde, et vous avez joué de votre portion, hein, comme ils ont comme on jouit. Ils ont joui et vous avez joui de votre lot, de votre portion, de votre part, comme ils ont joui, ou bien comme ont joui vos prédécesseurs de leur part et de leur lot. Et vous avez disputé à tort et à travers à propos de votre religion, comme ce qu'ils avaient discuté ou disputé à tort et à travers, eux aussi de leur religion à l'époque. Et ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ceux-là sont les perdants. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il nous a expliqué dans les cours précédents que la jouissance dans la portion, dans la part qu'on a de la dunya, ça a un rapport avec le fait d'être éprouvé par les shahawat, par les désirs interdits. Et de discuter à tort et à travers, eh bien ça a un rapport avec d'être éprouvé par les shubuhat, c'est-à-dire les doutes et les ambiguïtés qui sont reliés avec la croyance et la religion. Donc quand des peuples sont éprouvés par ces deux choses-là, c'est là que ils sont, dans l'égarement, parce qu'ils se sont laissés tenter par les péchés, et ils se sont laissés tenter par les passion et par les égarements dans la croyance et la religion. Et donc, au dernier cours, c'est de ça qu'on a parlé. En grande partie, on a expliqué ce verset-là de cette façon-là, avec les exemples et les clarifications. Là, aujourd'hui, on va continuer, en fait, sur cette explication, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer maintenant, Cheikh al-Islam? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne des choses qui se sont produites à d'autres peuples qui nous ont précédés, et en parlant des mouchriquins et des kuffars, il ne nous raconte pas ça juste comme des histoires pour nous divertir ou pour qu'on entende des histoires, pour qu'on connaisse l'histoire seulement. Mais c'est pour qu'on prenne des leçons de ces histoires-là et qu'on justement les mette en application, c'est-à-dire qu'on s'écarte de leurs mauvais exemples. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite: ثُمَّ قَوْلُهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ وَخُدْتُمْ خَبَرٌ عَنْ وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْمَاضِي وَهُوَ ذَمٌّ لِمَنْ يَفْعَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il explique ici? C'est que même si les verbes qui sont mentionnés dans le verset, c'est des verbes qui sont à propos de choses qui se sont produites dans le passé, eh bien, il faut savoir que c'est un blâme pour toute personne qui fait ces choses-là, hein, qui se sont réjouis dans la dunya, qui ont suivi leur passion, ou qui ont disputé. Comme disputer au sujet de leur religion, et ils ont parlé de leur religion à tort et à travers. Ça, c'est des blâmes. Et le blâme qui est mentionné dans ce verset et dans d'autres versets, c'est pour toute personne qui agit de cette manière-là jusqu'au jour de la résurrection. Donc, c'est pas seulement ceux qui étaient dans le passé qui sont concernés par qu'est-ce qui est mentionné dans le verset, mais c'est tous ceux qui agissent de la même manière jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme le reste de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des kuffars et des munafiqin à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un blâme pour eux, mais c'est aussi un blâme pour toute personne qui est dans la même état et dans la même situation que ceux-là. C'est-à-dire tous ceux qui rentrent dans la description et dans l'état et dans la description dans l'état que ces gens-là étaient et que Allah a blâmé, eh bien, ils sont blâmés tous ceux qui sont comme ça sont blâmés jusqu'au jour de la résurrection. Et également, ça peut être une information qui est à propos d'une caractéristique qui est permanente ou persistante, qui continue. Comme qu'est-ce qui est mentionné, par exemple, lorsque Allah dit dans le Coran, adorer. C'est pas juste adressé à l'époque de ceux qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire adorer Allah, que c'était eux seulement qui devaient adorer Allah. Non, c'est tous ceux qui viennent après aussi qui doivent le faire. Quand Allah disait, quand Allah a révélé le verset, farsilo, quand il parle du wudu, lavez vos visages et ainsi de suite, eh bien c'est pour ceux-là et pour ceux qui viennent après. Naam. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça. يعني ان استمتعوا وخاضوا خبر عن افعال ماضيه ولكنها ليست للماضي المنقطع وانما هي ضمائر مستمره الى ان تقوم الساعه فلا يقال ان هذه افعال الاولين فعلت وانتهت بل كل من فعل مثل فعلهم فهو مثلهم خاض كالذي خاضوا واستمتع كالذين استمتعوا فليست الآية في قوم مضوا وانقضوا وإنما هي في كل من سار على هذا المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعة وإلا فلن يكون لما يحدثنا به القرآن فائدة لو كان يحدثنا عن شيء مضى وانقضى وإنما يحدثنا بذلك لكي نأخذ الدروس والعبر ونكون على حذر أو على حذر وبصيرة ولئلا نقع فيما وقعوا فيه وكذلك كل أخبار القرآن ليست سردا تاريخيا فقط وإنما هي نهي عن الوقوع فيما وقع فيه من قبلنا. Donc c'est exactement ce qu'on a dit, qu'on a résumé depuis le début. Bon, c'est exactement ça que Cheikh Al-Fawzan il clarifie. Donc il dit c'est pas des choses qui se sont passées dans le passé puis que c'est fini maintenant. Non, ça concerne toute personne qui agisse dans le passé. Et ça c'est une réfutation aujourd'hui de ceux qui disent qui interprètent le Coran de manière disons matérialiste et qui pensent que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran c'était juste pour une époque dans le passé et que ça s'arrête. Que le Coran est un livre qui est révélé uniquement dans un contexte un contexte de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que ces révélations-là ou ces paroles d'Allah ne peuvent pas être comprises ou appliquées à l'époque contemporaine ou à l'époque moderne. Il y a beaucoup de gens actuellement qui essaient d'interpréter l'islam de cette façon-là. Donc, quand ils voient des versets dans le Coran, comme par exemple le verset du hijab ou le verset de d'autres règles de la religion comme le djihad ou autres, ils disent ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que à telle époque il est arrivé telle chose et donc à partir de ce moment-là les gens devaient faire ça. Mais ça c'était à cette époque-là et ça s'applique plus aujourd'hui parce que aujourd'hui on est une autre époque puis les choses ont changé ou ainsi de suite. Donc si tu interprètes le Coran de cette façon-là, ça veut dire que le Coran ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun bienfait de croire ou de suivre le Coran, de dire que tu crois au Coran. Si le Coran c'est juste un livre que tu lis comme ça, tu mets sur ta bibliothèque puis que tu l'appliques pas. Que tu vis pas selon qu'est-ce qui est ordonné dedans, alors ça veut dire que tu as pas donné au Coran de l'importance. Hein? Donc le cheikh il explique, il dit tout ce qui est mentionné, eh bien c'est pour qu'on prenne des leçons et des exhortations de qu'est-ce qui est mentionné et pour qu'on fasse attention justement à qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés. Par exemple. Pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés que eux, dans lesquels eux sont tombés. Et c'est ainsi également que donc les informations qui sont dans le Coran, c'est pas seulement des récits historiques pour qu'on se divertisse en les écoutant, comme le font un peu parfois les peuples qui ont des traditions orales ou des traditions écrites aussi qui se rappellent de leurs ancêtres et qui parlent de leurs exploits et des trucs comme ça. Ils parlent du passé uniquement pour avoir des connaissances historiques. Mais la parole d'Allah, c'est pas comme ça. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est يعني la parole de Al-Alim Al-Hakim, hein, Al-Khabir, celui qui connaît le présent, le futur et le passé parfaitement, et qui, lorsqu'il a révélé le Coran à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, savait parfaitement qu'est-ce qui allait se produire dans l'avenir et qu'est-ce que les hommes allaient avoir de besoin comme règles, comme principes et comme morale, et qui connaît parfaitement la nature humaine également et qu'est-ce que yani le cœur de l'homme désire à toutes les époques. Donc il y a des choses fondamentales dans l'être humain et dans sa nature qui ne changent jamais, peu importe, même si l'époque change. Aynan. Donc ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « Kama anna jami' al-mawjoudina fi waqt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'dahu wa ba'dihi ila yawm al-qiyamah mukhatabuna bihada al-kalam » لأنه كلام الله وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة إما بالسنة وإما بالإجماع أما بالقياس وإما بالقياس فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم وهذا أحسن القولين. Donc ici le cheikh il dit quelque chose, Ibn Taymiyyah il dit quelque chose de très intéressant en partant ici. Il explique que tous ceux qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui ont existé après lui jusqu'au jugement dernier sont les gens qui sont adressés par ce discours, par cette parole qui est dans le Coran. Donc tous ceux qui était présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après jusqu'au jour du jugement dernier, on est tous concernés par ce que Allah nous dit dans le Coran. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est uniquement un transmetteur. C'est-à-dire que lui, il vient que pour transmettre le message d'Allah. Donc c'est pas comme par exemple les koufars, pourquoi quand ils disent c'est un livre qui était révélé à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'applique uniquement à cette époque-là, et ça s'applique plus après. C'est parce que eux, ils croient ou ils disent, ils s'imaginent que c'était la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a écrit, qui l'a inventé lui-même. Et que c'est un être humain. Donc, puisque pour eux c'est un être humain, tout ce qu'un être humain écrit, c'est influencé par le contexte historique et social dans lequel il vit. Et ça reflète une réalité de son environnement, puis ça dépasse pas ça. Donc ça, il y a des choses qui peuvent s'appliquer, il y a des choses qui peuvent ne pas s'appliquer après, puis ça s'arrête là. Sauf que ça c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est de transmettre cette parole aux êtres humains. Hein? Et même sa sunna, son retour dans les hadiths, eh bien, c'est pas non plus sa parole à lui seulement. C'est une révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans Surat al-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ça ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba quelque chose ou leur explique quelque chose de la religion, ça vient d'Allah aussi. Et même il y a un hadith qui dit que Jibril descendait avec le Coran comme il descendait avec la sunna. Tu vois? Donc la sunna, elle vient aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pas des paroles qui viennent d'un être humain ordinaire comme tous les êtres humains. Sauf que les kuffars, ils ne croient pas en la prophétie. Ils ne croient pas en Allah de toute façon. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils nient cette chose-là. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, le maqsoud, anna khitab Allah wa khitab rasoulihi, يشمل الذين كانوا معاصرين لنزول القرآن الكريم ويشمل كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فكل من فعل مثل فعلهم متوعد بالخسارة والعذاب وأن الفعل الماضي المذموم يستمر في كل من اتصف به إلى يوم القيامة وليس هم في قوم مضوا وانقضوا وانتهت أيامهم بل هو يشمل جميع الأمة إلى يوم القيامة إما بالنص من الكتاب والسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس. Donc le cheikh il dit donc qu'est-ce que j'ai dit c'est exactement ça qu'il a répété sauf que il dit donc ici il y a peut-être un petit peu plus de clarification. Il dit donc toute personne qui est concernée, eh bien il rentre dans cette description là, il est concerné et donc ça s'applique jusqu'au jugement dernier. Et c'est pas à propos d'un peuple qui a vécu dans le passé puis que c'est fini, ils n'existent plus. Donc quand par exemple Allah il parle des juifs dans le Coran, ou des chrétiens dans le Coran, ou des munafiqines dans le Coran, il ne parlait pas juste des munafiqines de l'époque du prophète, et des juifs à l'époque du prophète, et des chrétiens à l'époque du prophète, et des mushrikines à l'époque du prophète seulement. Non. Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines caractéristiques et de certaines descriptions qui s'applique à toute personne qui les possède, peu importe qu'il soit à cette époque-là ou qu'il soit aujourd'hui. Hein? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ, quand les juifs ont dit la main d'Allah est fermée, eux ils veulent dire quoi? Par là ils veulent dire que Allah est avare, hein, et qu'il ne donne pas. Il y a des juifs qui disaient ça à l'époque, il y a des juifs qui disent ça aujourd'hui. Hein? Et par exemple, tu vois, par exemple, Allah il dit dans le Coran لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ, ceux qui ont dit que Allah est un des trois, un de trois, hein, comme les gens qui croient à la Trinité parmi les chrétiens, ou qui disent par exemple que le Messie, Jésus, fils de Marie, c'est Allah. Il y en a des chrétiens qui disent ça encore aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui s'appliquait juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis que c'est fini maintenant. Mais ça s'applique à toute personne qui rentre dans la description en question. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des munafiqin, yani, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, hein, donc ça c'est une caractéristique. Toute personne qui rentre dans cette caractéristique-là, ben ça s'applique à lui. Pas seulement à ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, ceux qui prennent les koufars pour alliés, c'est-à-dire qu'ils aiment les mushrikines et les koufars pour leur kufr et pour leur religion et pour leur shirk, ceux-là sont, hein, sont des munafiqines. Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Et ça c'est ça comprend quoi? Ça comprend le texte du Coran et de la Sunna, ça comprend le consensus des ulama, et ça comprend aussi le qiyas, hein, les analogies qui sont faites par selon les principes de la sharia. Après le cheikh il dit وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَؤُلَاءَ الْمُسْتَمْتِعِينَ الْخَائِضِينَ بِقَوْلِهِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا مِنَ الْآيَةِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنِ اسْتَمْتَعَ بِخَلَاقِهِ كَمَا اسْتَمْتَعَتِ الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ وَخَاضَ كَالَّذِي خَاضُوا وَذَمَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَتَوَعَّدَهُمْ عَلَيْهِ. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux-là qui se sont réjouis de leur lot, qui ont joui, profité de leur lot dans la vie d'ici-bas pour faire des péchés, faire du haram, et qui ont disputé à tort et à travers dans leur religion. Il les a menacés de rendre leurs œuvres vaines dans cette dunya et dans l'au-delà, et il a dit à leur sujet que ce sont ceux-là qui sont les perdants. Hein? Il dit, ceux-là, Allah a rendu vaines leurs œuvres. Habitat a'maluhum, c'est-à-dire c'est des kuffars. Parce que les œuvres des kuffars sont annulées, sont sans aucune valeur, même s'ils font des bonnes œuvres. Dans cette dunya et dans l'au-delà, et ceux-là, ce sont les perdants, al-khasirun. Le cheikh, il dit, ça c'est la conclusion. C'est ça qui est voulu par le verset, de dire que ceux qui agissent de cette façon-là, voici leur résultat de ce qu'ils vont recevoir à la fin et comment Allah les a menacés. Hein? Donc ceux dans cette umma, dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait la même chose que ceux qui nous ont précédés parmi les peuples mécréants, c'est-à-dire qui se sont réjouis, qui ont joui de leur portion dans la dunya et qui ont profité de ça pour y tomber dans les tentations et dans le haram et dans les shubuhat, pour tomber dans les shahawat, et également qui ont disputé à propos de leur religion et qui sont tombés dans les shubuhat, eh bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les menace et les blâme de la même manière qu'il a blâmé ceux qui les ont précédés. Donc c'est pas juste un blâme pour eux, c'est un blâme aussi pour nous, parmi les gens de cette umma, si on agit comme eux. La même chose que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens, lorsqu'il parle des juifs, lorsqu'il parle des mouchriquins, du peuple de Pharaon, du peuple de Houd. Il ne parle pas du peuple de Houd juste pour que nous on sache à propos du peuple de Houd ou du peuple de Pharaon, juste pour qu'on entende des histoires comme ça pour dire « Ah, c'est ça qui s'est passé dans le passé, ah d'accord, mashallah, ça c'est des belles histoires. » Non, c'est pour que toi tu ne fasses pas comme le peuple de Pharaon, que tu ne fasses pas comme Pharaon, que tu ne fasses pas comme le peuple de Houd, que tu ne fasses pas comme le peuple de Nour, que tu ne sois pas comme eux et que tu ne les imites pas. Et que tu suives l'exemple des messagers d'Allah et des croyants qui les ont suivis. Donc, c'est pas des histoires que Allah nous raconte juste comme ça. Il y a une raison pourquoi Allah nous raconte ces histoires-là. Et c'est pour qu'on en tire des leçons et pour qu'on les mette en application dans notre vie. Donc, le Cheikh, il dit, Al-Maqsoud Huna, Annallaha Yubayyinu, ça c'est Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Maqsoud Huna, Annallaha Yubayyinu Ma'al Al-Amr, Wal-Natija, Allati, Awsalat Al-Muta'akhirina, Ila Ma Wasala Ilayhim Man Qablahum. إلى ما وصل إليه من قبلهم وهي تشبههم وتخلقهم بخلاقهم أي بدينهم وخوضهم وخوضهم كما خاضوا أي في عقائدهم والنتيجة هي أنها حبطت أعمالهم يعني فليست لهم رصيد من الأعمال في الآخرة لأنهم أبطلوها بهذا الخوض وهذا الاستمتاع فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الخصلتين الخوض في العقيدة بغير علم بل باتباع الشبهات والخوض في الشهوات وفعل المحرمات والمعاصي فإن هذا الفعل محبط للعمل ولا يكون لصاحبه في الآخرة نصيب. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique que c'est ça l'objectif de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous clarifier dans ce verset-là. C'est-à-dire la conclusion de qu'est-ce qui arrive et le résultat de qu'est-ce qui arrive à ceux qui agissent de la manière dont ces gens-là ont agi dans le passé. Toute personne qui vient après, c'est-à-dire après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont entendu ces versets-là dans le Coran, et qui agissent comme ceux qui ont précédé, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant nous, ils agissent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils leur ressemblent dans leur comportement, dans leur façon d'agir, soit vis-à-vis de leur religion, parce qu'ils ont pataugé et discuté à tort et à travers dans la question de la croyance, ou ils ont commis des péchés, ils ont suivi leurs désirs, eh bien le résultat c'est que Allah rend leurs œuvres vaines, parce qu'ils n'auront aucune bonne action à présenter à Allah au jour de la résurrection à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont rendu leurs œuvres vaines parce qu'ils ont pataugé et discuté à tort et à travers dans leur religion et dans leur croyance. Ils ont parlé de leur croyance sans science et en suivant les doutes et les ambiguïtés. Et également, ils ont joui dans cette dunya des plaisirs illicites et sont tombés dans les péchés et dans les choses interdites et dans les passions. Et donc, toute personne qui agit comme ça, eh bien, ses œuvres seront annulées et il n'aura aucune part dans l'au-delà. Le Cheikh, il dit, قال الله عز وجل, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ثم إن قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها هذا مقيد للمشيئة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فيمكن أن لا يعطي أو أن لا يعطى شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة فيخسر الدنيا والآخرة فهذا مقيد بقوله ما نشاء. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 15 dans sourate Hud, celui qui désire la vie d'ici-bas et ses parures, nous lui donnerons le résultat de ses bonnes œuvres. Hein, qu'est-ce qu'il a fait de bien comme bonne rétribution pour qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire celui qui veut la vie d'ici-bas ainsi que ses parures, on va lui donner la récompense pour ses œuvres qu'il a faites de bien, mais dans cette vie d'ici-bas. Hein? Et ils ne seront pas lésés. Après, il dit, puis ensuite, Allah dit, quand il dit, on va leur donner le résultat ou la récompense de leurs bonnes actions dans la vie d'ici-bas, ça c'est selon la volonté d'Allah. C'est-à-dire que ça se peut que Allah leur donne une récompense pour le bien qu'ils ont fait dans cette ville d'ici-bas, et ça se peut qu'il ne leur donne rien non plus. Parce que, comme on sait que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les mu'minines pour les bonnes œuvres qu'ils font dans cette vie et dans l'autre. Et pour les kuffars, s'ils font des bonnes œuvres, Allah peut leur récompenser pour les bonnes œuvres qu'ils font dans cette vie d'ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Seulement dans cette vie d'ici-bas. Donc si un kafir fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour le bien qu'il fait dans cette vie. Hein? S'il veut. C'est ça que le cheikh il dit. Hada muqayyadun bil mashi'a. S'il veut. Et la preuve que c'est limité à sa volonté, c'est l'autre verset dans Surat al-Isra, le verset 18, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Man kana yuridu al-ajila. C'est-à-dire celui qui désire la vie éphémère d'ici-bas, eh bien on va lui donner une récompense précipitée pour lui dans cette vie d'ici-bas à qui nous voulons et à celui que nous avons voulu. C'est-à-dire on lui donnera ce qu'on veut à qui on veut. Hein? C'est-à-dire que Allah il va choisir s'il veut leur donner ou non. Tandis que pour les mu'minines, il les récompense dans cette vie d'ici-bas, et il leur récompense dans l'au-delà. Et ça se peut qu'ils n'ont pas de récompense dans la vie d'ici-bas, mais même s'ils n'ont pas de récompense dans la vie d'ici-bas, ils auront la récompense dans l'au-delà, quand même. Hein? Non, pour les mu'minines, c'est-à-dire dans l'au-delà, il a promis. Et Allah, il ne manque pas à sa promesse. Naam, inna Allah la yukhliful mi'ad. Donc le cheikh il dit فيمكن أن لا يعطى شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة فيخسر الدنيا والآخرة وهذا مقيد بقوله ما نشاء. Donc le cheikh il dit il est possible qu'on lui donne quelque chose, il est possible qu'on ne lui donne rien dans la dunya ni dans l'au-delà, c'est-à-dire le kafir. Et donc, dans ce cas-là, il sera perdant. Il aura perdu la dunya et l'au-delà. Et ça, c'est qu'est-ce qui est limité par la parole, manasha, c'est-à-dire ce que Allah a voulu. Donc, c'est ça qui donne cette condition-là ou cette exception-là. C'est uniquement selon la volonté d'Allah. Et il dit ensuite, wa qawluhu. وأن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه وهذا مثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لسلكتموه. هناك روايات مختلفة. فلما كان في الأمم من قبلنا من استمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم من الدنيا وخاضوا في عقيدتهم واتبعوا أهواءهم فإنه سيكون في هذه الأمة ما كان في من قبل ما كان في من قبلها. وهذا إخبار معناه التحذير، لأن الله تعالى يقول أو قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وهذا تحذير من هذا المسلك الخطير. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, et Ibn Taymiyyah il a dit qu'il nous a informé que dans cette umma il y en a qui vont également jouir de leur lot de la même manière que ceux qui ont précédé en faisant des péchés et des choses haram et ainsi de suite. Le cheikh il dit, et ça c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que j'ai mentionné au début, hein, qui est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les peuples qui vous ont précédé pas à pas, hein, et jusqu'à ce que même s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, vous les suivriez dedans. Et le cheikh il dit, donc étant donné que dans les différentes nations qui nous ont précédés, il y en a des gens qui ont joui de leur lot, hein, de leur part de la dunya, et qui ont débattu ou disputé à propos de leur croyance, et qui ont suivi leur passion, eh bien il y aura ça aussi dans notre umma, hein, comme il y en a eu dans le passé. Et ça c'est une information qui nous est donnée et qui a le sens de la mise en garde. Il y a le sens de l'avertissement et de la mise en garde. Hein, pour ceux qui disent que la mise en garde, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'islam. Et Allah, il nous met en garde dans plein de versets dans le Coran. Hein, pas juste à propos des péchés, mais même à propos des peuples, de ne pas imiter les peuples qui nous ont précédés. Donc, si Allah nous met en garde de pas être comme eux, de pas imiter ces gens-là, eh bien, on doit également mettre en garde contre toute personne, ou tout groupe, ou tout individu qui nous amène à suivre l'égarement, ou à tomber dans l'égarement. Si on met pas en garde contre ça, dans ce cas-là, on n'est pas sincère envers les gens. On n'a pas été honnête et sincère envers les gens. Et le cheikh il dit, لأن الله قال أولئك حبطت أعمالهم, ceux-là, leurs œuvres a été rendues vaines dans la dunya et dans l'au-delà. Et donc ça c'est une mise en garde de ne pas suivre cette voie qui est dangereuse. Ensuite qu'est-ce qu'il dit cheikh Al-Fawzan, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ثم حبهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم ما يفعل من يفعل ذلك. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné ce verset là, il nous incite à prendre des leçons de ceux qui ont vécu avant nous, et il dit est-ce que vous n'avez pas reçu la nouvelle de ceux qui étaient avant vous, le peuple de Nuh, le peuple de Ad et Thamoud? C'est-à-dire, n'avez-vous pas reçu la nouvelle à propos de ces peuples-là qui vous ont précédé? Et le cheikh il dit qu'on a déjà expliqué précédemment que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne l'obéissance d'Allah et de son messager dans la description des croyants, eh bien, il donne des descriptions parallèles, si on veut. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne toujours l'exemple, par exemple, quand il parle des mu'minin et des croyants, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme récompense. Après, il nous donne toujours l'opposé, qu'est-ce qui correspond chez les kuffars et les mushrikins, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont eu comme punition. Donc, on voit toujours ça dans le Coran. L'exemple des mu'minines et leur récompense, l'exemple des kuffars et leur punition. Toujours. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait ça? C'est parce qu'il veut qu'on prenne des leçons de qu'est-ce qu'il nous dit. Et il veut blâmer ceux qui ont contredit ses ordres et mentionné la récompense et le bien, pour qu'on ressemble à ceux qui ont fait le bien et qui ont cru, et qu'on s'écarte de la description de ceux qui ont contredit l'ordre d'Allah. Donc le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit قوله ثم حضهم على الاعتبار يعني بعد أن ذكر الله وجه الشبه بين أولئك القوم ومن سار على دربهم وإنما ذكر ذلك للتحذير قال الله عز وجل واعظا لهؤلاء المنافقين ألم تخبر خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة وفي هذا تنبيه لنا أن لا نغفل عن دراسة التاريخ ودراسة الحوادث وبيان أسبابها حتى نتجنب الضار ونأخذ بالنافع. Donc le cheikh il dit, quand ensuite Ibn Taymiyyah il dit, puis Allah il nous incite à réfléchir et à prendre des leçons, c'est-à-dire à prendre des leçons de ceux qui nous ont précédés. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné les exemples de ressemblance entre eux, entre les munafiqin et les peuples qui nous ont précédés, hein, et qui ont suivi la même voie qu'eux, dans le but de nous avertir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte, et il exhorte ces hypocrites, en particulier en leur disant, n'avez-vous pas eu l'information à propos de ceux qui étaient avant vous parmi les nations qui ont traité les messagers de menteurs? Et ça, c'est un avertissement et une note pour nous de ne pas être insouciants vis-à-vis de l'étude de l'histoire et de l'étude des événements qui se produisent et de connaître leurs causes, pour qu'on puisse éviter ces causes négatives-là et qu'on puisse prendre ce qui est bénéfique de ces leçons-là. Après, il dit « wa qawluhu » parce que dans toute chose qui arrive dans l'histoire, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours une leçon. Hein? Donc tu peux dire, par exemple, quelque chose qui est arrivé qui était très mauvais, hein, pour les musulmans. Tu dis « ah, ça c'était très mauvais, qu'est-ce qui est arrivé, c'était triste. Hein? » Mais ça sert à rien juste de s'acharner sur notre sort. Hein, c'est que, par exemple la colonisation de l'Algérie par la France. Tu peux dire « ah, ça c'est quelque chose qui est triste, c'est quelque chose qui est très grave, qui est arrivé, qui est très malheureux. » Mais est-ce qu'on ne peut pas en tirer des bonnes leçons? Oui. Si on regarde les causes, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé, on peut savoir dans l'avenir comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas et comment faire en sorte de justement en tirer les meilleures choses, hein, et de rejeter ce qui est mauvais. Donc ça c'est un exemple juste pour montrer que dans toute chose tu peux l'utiliser à bon escient si tu sais analyser les choses comme il faut, hein. Et bien entendu, il faut, pour connaître les vraies causes, il faut que ce soit analysé par quelqu'un qui connaît la religion d'Allah. Parce que si c'est analysé par un communiste ou un socialiste ou un athée, il ne va pas avoir les mêmes raisons, les mêmes causes que le mu'min. Donc il faut analyser les choses selon l'enseignement d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Après, le cheikh il dit wa qawluhu alam ya'tihim naba'u alladhina istifhamun istinkari يعني قد أتاهم خبر هذه الأمم فليس المقصود النفي وإنما هو تقرير واستنكار فإن قوم نوح أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض ما أصابهم إلا من آمن بعبده ورسوله نوح. Donc le cheikh il dit ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, bon, je juste mentionner cet exemple là quand il cite le verset 70 qui suit après, il dit est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, le peuple des Had, des Thamoud, d'Abraham, des gens de Madian et des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Hein? Donc le cheikh il explique ici, il dit quand Allah il dit ne leur sont-elles pas parvenues, c'est pas pour nier qu'elles ne leur sont pas parvenues, hein? C'est une question pour en fait les réprimander. C'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala pose, c'est une, comme on dit, les questions, une question rhétorique, oui. C'est-à-dire qu'on connaît déjà la réponse à cette question. Mais c'est pour justement faire les réprimander, pour leur dire, vous le savez, vous l'avez reçu l'histoire, vous l'avez entendu, et vous savez qu'est-ce qui est arrivé. Donc pourquoi vous ne prenez pas une leçon de ça, puis vous ne changez pas votre comportement? C'est ça que ça veut dire. Donc il dit... Ne leur les informations à leur sujet, au sujet des peuples qui nous ont précédés, est-ce qu'elles ne leur sont pas parvenues? Et le cheikh, il dit, c'est comme si pour leur dire, oui, les informations leur sont parvenues au sujet des peuples précédents. Donc le but, ce n'est pas la négation, mais c'est au contraire l'affirmation et la réprimande de ces gens-là. Parce qu'on sait que le peuple de Nuh, alayhi salam, ils ont été frappés par le déluge, et que tous les hommes, les êtres vivants de la terre ont été frappés par ce déluge, excepté ceux qui ont cru en son serviteur et messager Nuh alayhi salam. En ce qui concerne Ad, le cheikh il dit, wa amma Ad fa uhliku birrih al-aqim lamma kadhabu Hudan alayhi salam wa Samud akhazathum as-sayha لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام حيث أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة والمؤتفكات وهم قوم لوط وقالوا نصيبهم من العذاب نصيبهم من العذاب والغرض أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم أنبياء الله. Donc le cheikh il dit l'exemple également de Ad. Allah les a fait périr par un vent très fort lorsqu'ils ont traité leur messager, leur prophète de menteur. Le prophète Hud, ils l'ont traité de menteur. Et Samoud, ils ont été pris par un cri lorsqu'ils ont traité leur prophète Salih de menteur et qu'ils ont tué la chamelle. Et de même que les gens de Madian, qui était le peuple de Shu'aib, ils ont été frappés par un tremblement lorsque ils ont traité leur messager de menteur. Ils ont été frappés par un châtiment eux aussi. Et Al-Mu'tafikat, c'est les peuples qui ont été renversés, c'est le peuple de Lot, alayhi salam. Eux qui pratiquaient la turpitude et le péché, donc, et qui faisaient aussi, qui faisaient le shirk en même temps aussi, ben, ils ont eu aussi leur part de châtiment. Et le but de ça, c'est pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr jusqu'au dernier, parce qu'ils ont traité leur messager de menteur. ثم قال جل وعلا أتتهم رسلهم بالبينات أي أن الله أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل الذين دلوهم على الله وعلى طريق التوحيد ولكنهم لم يمتثلوا ولم يتبعوا الرسل فهلكوا فكذلك أنتم إذا لم تتبعوا رسولكم فإن سبيلكم سبيل من كان قبلكم فعليكم الحذر من هذا فالله يرسل الرسل فمن اتبعهم نجا وأفلح في الدنيا والآخرة ومن خالفهم هلك فانظروا موقفكم من نبيكم ولا يكن كموقف تلك الأمم السابقة لأن لا يحل بكم ما حل بهم. Donc il dit ici que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 70 à la fin dans sourate At-Tawba, leurs messagers leur sont parvenus avec les preuves claires et évidentes. Et il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a établi contre eux la preuve en leur envoyant les messagers qui leur indiquaient les preuves à propos d'Allah et de la voie du tawhid, de l'unicité d'Allah, et que seul Allah doit être adoré. Mais ils n'ont pas mis en application les enseignements de ces messagers-là, et ils n'ont pas voulu suivre les messagers. À cause de ça, ils ont péri. Et donc, c'est ainsi que vous aussi, c'est-à-dire vous les musulmans, la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne les suivez pas, si vous ne suivez pas votre messager, le messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la même chose va vous arriver. Et quand on dit votre messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas juste dire Ummatul Istijaba, ça veut dire Ummatul Da'wa. Ummatul Da'wa, ça comprend tous les hommes sur la terre, même les non-musulmans. C'est le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de tous les hommes qui sont venus et qui vont venir jusqu'à la fin des temps. Qu'ils soient juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, athées ou peu importe leur religion, parce que c'est le dernier des messagers qui est venu jusqu'à la fin des temps, il n'y en aura jamais d'autre. Donc il est le messager de tous les autres, de tous les hommes qui viennent après lui. Toutefois, ce n'est pas tous les hommes qui viennent après lui qui vont l'accepter son message et qui vont croire en lui. C'est pour ça que les ulama ils distinguent la umma en disant ummatu da'wa et ummatu istijaba. Ummatu da'wa, c'est tous les hommes, y compris les non-musulmans, et ummatu istijaba, c'est uniquement ceux qui ont répondu à l'appel de la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et donc c'est ça. Et le cheikh il dit donc c'est pour dire que la même chose va vous arriver si vous faites la même chose que les peuples précédents, comment eux ont agi envers leurs messagers. Si vous agissez de la même manière qu'eux, eh bien vous allez avoir la même punition qu'eux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les messagers, ceux qui les suivent ils sont sauvés et ils ont le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Toutefois, si ceux qui les contredisent, eh bien, regardez votre position. Hein, ceux qui les contredisent, ils périssent. Regardez donc votre position vis-à-vis de votre messager, de votre prophète, et faites en sorte que votre position ne soit pas la même que les nations qui ont précédé, pour que vous n'ayez pas les mêmes châtiments que le châtiment qui a touché ceux qui vous ont précédé. Donc ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit wa qawluhu wa amarahu bi jihad al-kuffar wal munafiqin ba'da hadhihi al-aya dalilun wa amruhu bi jihad al-kuffar wal munafiqin ba'da hadhihi al-aya dalilun ala jihad ha'ula al-mustamti'in al-kha'idin. Donc le Cheikh il dit, et ensuite après avoir mentionné ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne de faire le djihad et de lutter contre les koufars et les munafiqin, après ce verset. Et il dit ça, c'est la preuve qu'on doit lutter contre ceux qui ont joui de leur lot en faisant les péchés et disputé à propos de la croyance. Hein? Al-Kha'idin. Donc le verset 69, après il y a le verset 70 qu'on vient de lire, et ensuite le verset 71 et 72... qu'on a expliqué avant ça, qui décrit les croyants et qu'est-ce qu'ils auront comme rétribution, et après le verset 73 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux, l'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Donc avant ça, le verset 71 et 72 c'est la description des mu'minins, on l'a expliqué avant. Ok, donc Cheikh Al-Fawzan maintenant il va donner une explication détaillée de tout ce que de ce passage là, c'est très important. Donc le Cheikh il dit wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiy yujahid al-kuffara wal munafiqin al-kuffar hum alladhina a'lanu kufrahum sarahatan wa nasabu al-anbiya العداء والتكذيب وهؤلاء يجاهدون بالسلاح أما المنافقون فهم أخبث من الكفار لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام خداعا ومكرا لأجل ذلك كان جزاؤهم في الآخرة أن جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار وهؤلاء يجاهدون باللسان برد شبهاتهم وضحد مقولاتهم والله عز وجل أمر بجهاد الفريقين من الكفار والمنافقين من أجل إزالة الكفر من الأرض وإرجاع الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمن عاند وكابر ورفض قبول الحق فلا بد أن يجاهد لأن لا يضل غيره ويصد عن سبيل الله عز وجل. فلو ترك الكفار ولم يجاهدوا لطغوا وبغوا في الأرض ولنشروا الكفر ومنعوا انتشار الإسلام، ولذلك شرع الله جهاد الكفار بالسلاح. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en français qui signifie, quand on la traduit, « Oh, toi le prophète, lutte contre les kuffars et les munafiqin », les kuffars c'est qui? Cheikh il dit, les kuffars, ce sont ceux qui ont exprimé et divulgué ouvertement leur mécréance. Donc, al-kuffar hum alladhina alanu kufrahum. Les kuffars, c'est qui? C'est ceux qui ont montré leur kufr ouvertement et qui l'ont exprimé ouvertement. Contrairement aux munafiqin. Les munafiqun, eux, c'est des gens qui cachent leur mécréance. Ils ne disent pas qu'ils sont mécréants. Ils montrent qu'ils sont des croyants. Tandis que les kuffars, c'est ceux qui montrent leur kufr clairement et qui ont exprimé ouvertement leur animosité et leur haine envers les messagers et envers les prophètes, et qui disent ouvertement qu'ils ne croient pas en les messagers. Ils les traitent ouvertement de menteurs. Donc ceux-là, ils sont combattus par les armes. Ceux-là, ils doivent être combattus par les armes. Tandis que les munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui ne montrent pas leur mécréance, ils la cachent, le cheikh dit ceux-là, ils sont plus mauvais que les kuffars. Ils sont plus mauvais que ceux qui disent clairement qu'ils sont kuffars. Pourquoi ils sont plus mauvais? Parce qu'ils ont caché leur mécréance et ils ont montré l'islam. Par ruse et par, trahison ou par complot. Et donc, à cause de ça, leur récompense, ou plutôt leur rétribution, la punition qu'ils vont avoir dans l'au-delà, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans le fond, dans le fin fond de l'enfer. C'est eux qui vont être dans le niveau le plus bas dans l'enfer. Et ceux-là, les munafiqoun, on ne les combat pas avec les armes. Les munafiqoun, on ne les combat pas avec les armes comme les kuffars qui sont déclarés. On les combat par la langue. On les combat, les munafiqoun, par la langue. Et c'est-à-dire en réfutant leurs shubuhat et en détruisant leurs paroles d'égarement et de fausseté. Comme par exemple les shubuhat des munafiqs. Il y a toujours des munafiqoun qui viennent pour essayer de mélanger les gens dans leur religion, mélanger les gens dans leur croyance. Comme certains musulmans à notre époque qui défendent des idéologies de kufr ou des principes de kufr. Eh bien, ils ramènent des shubuhat pour essayer de rendre ces choses-là islamiques ou de faire rendre ces idéologies-là acceptables islamiquement. Donc, le devoir des ulama de l'islam, c'est de les réfuter avec la science et de montrer que ce qu'ils ramènent comme ambiguïté et doute ou confusion à propos de ces idées-là dans la religion, eh bien, c'est quelque chose qui est faux. Hein? Donc eux, les munafiqins souvent, ou les gens de bid'ah, de façon générale, ils déforment la réalité de la religion, et les savants de l'islam, et en particulier les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est eux qui ramènent les choses à leur réalité, et qui réfutent ces gens-là en leur ramenant les preuves du Coran et de la Sunnah, et en leur clarifiant que ce qu'ils disent est faux. Et c'est ça ce que tous les grands imams d'Ahl Sunnah wal Jama'ah à travers l'histoire ont fait. Que ce soit à l'époque des Sahaba ou des Tabi'in, ou l'époque des grands imams comme les quatre imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, ou bien les grands imams d'Ahl Sunnah qui sont avant et après eux, et aussi l'imam Ahmad, on sait qu'il a fait face aux Mu'tazila à son époque et qu'il les a réfutés dans leur shubuhat et ainsi de suite. La même chose avec d'autres qui sont venus par la suite. Et donc c'est pour dire que tous ces gens-là ont été combattus. À l'époque de l'imam Ahmad, la grande fitna, c'était la fitna des Mu'tazila, la question des noms et des attributs d'Allah. et que ces gens-là voulaient nier les noms et les attributs d'Allah, donc l'imam Ahmad les a réfutés. À l'époque de l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Chef, il n'y a personne qui adorait des tombes encore. C'était pas encore introduite, cette bid'a n'était pas encore introduite dans la Ummah. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver des livres écrits par les ulama pour réfuter l'adoration des tombes à cette époque-là. Parce que ça n'existait pas encore. C'est lorsque ces choses-là sont apparues dans la Ummah que des savants comme par exemple Ibn Taymiyyah qui sont arrivés et qui ont, et d'autres avant lui aussi, qui ont réfuté ces gens-là quand ils ont commencé à faire ces choses-là. Hein? Et c'est pour ça les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils ne vont pas trouver par exemple des livres sur ces sujets-là à l'époque écrits spécifiquement pour réfuter le shirk dans l'adoration. Avant ça, les ulama, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rapportaient les versets dans le Coran et les hadiths qui parlent du tawhid de façon générale, parce que il y avait pas de shirk qui était appliqué de façon spécifique dans cette catégorie du shirk. Peut-être si ça arrivait, c'était des cas isolés. Mais quand c'est devenu quelque chose qui s'est propagé, qui s'est répandu dans plusieurs pays de la Oumma et dans plusieurs régions, et bien là, quand c'est devenu à ce point-là, c'est là que des savants ont commencé à écrire pour réfuter ceux qui appelaient à ces idéologies-là. Et c'est comme ça que Ibn Taymiyyah a commencé donc à réfuter ces gens-là qui pratiquaient ces choses-là, et les savants qui sont venus après encore plus, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres, hein, et qui ont fait beaucoup d'efforts justement pour combattre le shirk dans l'adoration. Regardez le livre de Ibn Taymiyyah, c'est rempli de ça, des livres sur Tawhid al-Ibada et Tawhid al-Asma al-Sifat. Mais le grand combat de Ibn Taymiyyah, c'était surtout de réfuter les bid'ahs dans ces deux catégories-là. Mais en particulier Al-Asma al-Sifat, parce qu'il a combattu beaucoup cette bid'ah-là. Regardez son livre Al-Aqidat al-Wasitiyya, hein, Al-Fatwa al-Hamawiyya, et beaucoup d'autres également, comme ça. Et réfuter les philosophes, et réfuter les... Il a réfuté presque toutes les sectes. Ibn Taymiyyah, il a des livres qui réfutent toutes les sectes que tu peux imaginer. Et c'est des réfutations, pas juste superficielles, c'est-à-dire, une réfutation détaillée et approfondie. Non, c'est pas qu'ils sont nécessairement, c'est pas parce que tous les gens de Bid'a sont des munafiqoun, mais ils ont des caractéristiques qui les font ressembler aux munafiqoun dans leur façon d'être et dans leur façon d'agir. Les gens de Bid'a ont des caractéristiques des munafiqines. Et certains d'entre eux sont des munafiqines. Certains d'entre eux sont des kuffars. Certains d'entre eux sont des mushrikines. Il y a des gens de Bid'a qui sont des mushrikines et qui font du shirk akbar. Il y a des mubtadi'a qui font du kuffar akbar. Il y a des mubtadi'a qui font du nifaq. Et la grande majorité des gens, parmi les gens de Bid'a, par exemple, comme les Rafida, les Shia, ils agissent envers les gens d'Ahl Sunnah, comme les munafiqins agissaient à l'époque du prophète sallam envers les musulmans. Hein? Quand ils sont entre eux, ils disent que les gens d'Ahl Sunnah sont des kuffars. Hein? Et ils considèrent que les gens d'Ahl Sunnah sont les plus grands ennemis. Regardez les Khawarij, comment ils ont combattu les Sahaba. Ça, c'est des caractéristiques des munafiqines aussi. Ils voulaient les tuer, puis les détestaient. La même chose avec les Mu'tazila, les Jahmiya et tous ces gens. Ils détestent les gens d'Ahl Sunnah. Donc, ils agissent, ils ont des caractéristiques des munafiqines. D'accord? Et c'est pour ça que des fois, quand tu lis dans le Coran, tu vois qu'Allah divise les gens, l'humanité en kuffar, munafiqin et mu'minin. Hein? Donc les gens, ils ne voient pas la catégorie mubtadi'a, où est-ce qu'on la classe. Hein? Parce qu'ils sont mu'minin, c'est-à-dire ils sont des musulmans, mais en même temps, ils ne sont pas nécessairement, ou apparemment tout le temps, des munafiqin. Mais ils ont des caractéristiques des munafiqin. Et non. Tayyib. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite le Cheikh? Il dit, les gens de Bid'a, on les réfute avec la langue et on réfute leurs paroles. Vous voyez par exemple les ulama d'Ahlus Sunnah, combien de livres ils ont écrits pour réfuter les gens de Bid'a? Plein de livres de réfutation, c'est rempli. Hein? Et il y a un cheikh qui a écrit un recueil des titres, des livres, des salafs sur la aqida qui réfute les croyances des gens de Bid'a. Ça dépasse, il y en a des centaines et des centaines d'ouvrages. Hein, chez les salafs. Et même, comme certains ulama l'ont expliqué, ils ont dit même le Coran c'est un livre de réfutation. Parce que dans le Coran, on réfute les kuffars, les mushrikines, les gens du livre, et ainsi de suite. Les munafiqines. Donc il y a plein de redoutes dans le Coran, il y a plein de réfutations. Hein? Après, le cheikh il dit donc Allah nous ordonne de lutter contre les deux groupes. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, c'est-à-dire lutter, faites le jihad contre les kuffar et les munafiqin et soyez rude envers eux, soyez dur envers eux. Et le but c'est d'éliminer le kuffar de la terre et de ramener les gens à l'adoration d'Allah. Donc quiconque fait preuve d'arrogance et qui s'enfle d'orgueil et refuse d'accepter la vérité, il doit être combattu. On doit faire le jihad contre lui pour pas qu'il égare les autres. Et pour pas qu'il obstrue le chemin d'Allah, pour que les gens puissent plus accepter le message d'Allah. Parce que le cheikh il dit, si on laisse les kuffars et qu'on les combat pas, ou on ne lutte pas contre eux, eh bien ils vont transgresser, ils vont faire du désordre sur la terre. Et ils vont répandre la mécréance et ils vont empêcher la propagation de l'islam. Et c'est pour ça que Allah a légiféré le jihad contre les kuffars avec les armes. Bien entendu, le jihad avec les armes contre le kuffar, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, bien entendu, la capacité. Et aussi, il y a plein d'autres conditions. Mais la capacité, c'est une des plus importantes. Et la capacité, c'est pas une condition uniquement pour le jihad. La capacité, c'est une condition pour toutes les adorations, au complet, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une adoration, excepté qu'elle n'est pas sous la condition de la capacité. Et si tu ne peux pas la faire, eh bien elle n'est plus obligatoire pour toi dans ce cas-là. Comme par exemple si tu ne peux pas faire le hajj, soit parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens de transport, tu n'as pas la capacité, dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire pour toi. La salat, tu es capable de le faire, tu es paralysé. Donc dans ce cas-là, te tenir debout, c'est une obligation. Tu ne peux pas te tenir debout parce que tu es malade, donc tu peux la faire coucher. Hein? Tu peux la faire assise. Et ainsi de suite. Le jeûne du Ramadan, tu peux pas le faire, t'es malade, t'es fatigué, t'es en voyage, tu peux pas le faire, t'es pas obligé de le faire. Tout le jihad, c'est la même chose. Tu vois que les ennemis d'Allah sont forts, ils ont des armes et des puissances, ils sont trop armés et ils sont plus nombreux. Si tu les affrontes, tu vas te faire massacrer. Dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour toi et tu fais pas de péché en les combattant pas. Hein? Tandis que ces écervelés de Khawarij à notre époque, eux ils s'imaginent que non, coûte que coûte, il faut affronter. Hein? C'est-à-dire s'il y a un million de combattants avec des tanks et des avions et des missiles et tout, puis que toi tu es là avec ton couteau de cuisine, puis tu veux aller, tu dis Allah il nous ordonne de faire le jihad, il faut aller, tu sors dans la rue avec une hache, tu tues les gens dans la rue. Ça, pour eux, ils pensent que c'est le jihad. Alors que cet écervelé, ce malade, et cet idiot, il va aller se faire tuer pour rien. Il gaspille sa vie et il fait du tort à l'islam et aux musulmans. Hein? Parce que les pauvres, ils sont allés faire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement là? Ils sont morts après. Qu'est-ce qu'ils ont ramené de bien pour l'islam et qu'est-ce qu'ils ont ramené de bien pour les musulmans? Est-ce qu'ils ont donné la victoire à l'islam? Est-ce qu'ils ont ramené une victoire à Allah? Est-ce qu'ils ont fait que maintenant la parole d'Allah est plus élevée? Pas du tout. Au contraire, ils ont encore fait plus de tort à l'islam et aux musulmans. Donc, où est-ce qu'il est le bien dans ce que ces gens-là font? Il n'y a pas aucun bien dans ça. Hein? Au contraire, même il y a du mal. Et celui qui... Ces gens-là, yani Allah al-Musta'an, ils sont tellement malades. C'est comme des chiens mordus par un chien, des gens qui sont mordus par un chien enragé. Ils deviennent comme, ils perdent la tête. Ils réfléchissent plus, Même avec la raison, il n'utilise plus la raison. Donc il voit les choses à l'envers. Il s'imagine en train de faire le bien, alors qu'ils sont en train de faire du tort. Après, le cheikh il dit, وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَإِنَّ جِهَادَهُمْ يَكُونُ بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَدْلُونَ أو يَدْلُونَ بِشُبُهَاتِ وَحُجَّةٍ وَاهِيَةٍ وقد أعطوا مزيد فصاحة كما قال الله في وصفهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقوله وفيكم سماعون لهم يعني فيكم من يصدقهم وهنا تمكن الخطورة أنهم يلقون بشبهات مزخرفة مزورة بأسلوب منمقة أو منمق ومخادع ليقنع به الخصم مع كونهم يدعون الإسلام فينخدع بهم المسلمون فلذلك يجاهدون باللسان ولا يتركون وشبهاتهم وأقوالهم الباطلة لئلا تؤثر على ضعاف الإيمان والجهال من المسلمين فلا بد من رد شبهات المنافقين وكشف كيدهم والله جل وعلا كشفهم وفضحهم وفضح مكائدهم ومخازيهم في القرآن الكريم. Le Cheikh il dit en ce qui concerne les hypocrites, les munafiqoun, y compris les gens de bid'a comme on l'a dit, eh bien le djihad qu'on fait contre eux, c'est le djihad par la preuve et par la clarification et l'établissement de la preuve. Donc le djihad, il y a différents degrés, et parmi les degrés du djihad, il y a le djihad contre les munafiqin, et contre les mubtadi'a, et contre les gens qui déforment la réalité de la religion d'Allah. Hein? Et donc, avec cette catégorie-là, ce n'est pas avec les armes qu'on les combat, les munafiqoun. On les combat par la preuve. Excepté les Khawarij, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'ils sortent pour combattre, pour tuer les musulmans, dans ce cas-là, le dirigeant musulman a la responsabilité de les arrêter, de les combattre. Hein? Comme c'est arrivé à l'époque de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, hein, les musulmans ont combattu les Khawarij à Nahrawan, qu'on appelle la bataille de Nahrawan, et ils les ont massacrés, hein, ils les ont exterminés, les Khawarij. Et c'est ça la conséquence et le résultat de tout ce qui, à chaque fois que les Khawarij sortent, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elles seront coupées, ou elle sera coupée. Les Khawarij, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont sortir à différentes époques, hein, jusqu'à 20 fois, ils vont sortir. Et à chaque fois, leur corne va être coupée. En voulant dire, ils vont être écrasés. Et c'est arrivé à l'époque d'Ali radiallahu anhu, c'est le premier qui a combattu les Khawarij, et ainsi de suite à travers l'histoire. Hein? Et le Cheikh, il dit donc qu'ils sont combattus, si les gens de Bid'a, yani, ils propagent des Bid'a, ils propagent des gens de Nifaq, ils propagent le Nifaq, eh bien, ils doivent être réfutés par de la science, par des preuves. Parce que les munafiqoun, ils ont des shubuhat seulement. Ils n'ont pas d'arguments, des preuves, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est des shubuhat. Et qu'est-ce que ça veut dire, des shubuhat? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ça ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et c'est pour ça que ça cause de la confusion et de l'ambiguïté chez le croyant, ou chez la personne qui a peu de science. Quand elle va entendre cette parole, elle va peut-être se laisser avoir, parce qu'elle voit que dans cette parole-là, il y a quelque chose de vrai dedans. Mais c'est une vérité qui est seulement en apparence. Parce que si tu rentres à l'intérieur de cet argument, tu découvres en réalité que c'est une ruse, que c'est faux, qu'il n'y a rien de vrai dedans. Hein? Comme par exemple, des fois, les gens de Bid'a, comme les soufis ou autres, quand ils vont faire quelque chose, après, tu leur dis, « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est pas en accord avec l'islam. » Et là, ils te disent, « Oui, c'est en accord avec l'islam. » Tu dis, « Ah oui, c'est quoi la preuve? » Et là, ils te sortent un hadith et ils disent, « Oui, parce que telle affaire. » Et toi, si t'as pas de science, tu dis, ah d'accord, dans ce cas-là, ok, je savais pas. Hein? Mais si t'as de la science, que tu connais la science du hadith et que tu connais cet exemple-là, tu lui dis, d'où est-ce que tu sors ce hadith? Dans quel livre tu l'as sorti? C'est qui est-ce qui l'a rapporté? Hein? Dans quel recueil de hadith? Et là, s'il ne te donne pas de nom, tu dis, il faut vérifier, il faut que tu me donnes la source. Et s'il te donne la source après, tu lui dis de tel livre, là après tu peux aller vérifier, tu vas voir l'authenticité de ce hadith. Est-ce qu'il est authentique ou non? Parce que la plupart du temps c'est comme ça. Ils se basent sur des hadiths qui sont da'if, et même parfois des hadiths qui sont fabriqués, c'est-à-dire c'est des inventions, c'est même pas un hadith. Donc ça c'est un exemple. La shubha, ça peut être quelque chose, tu penses que c'est vrai, mais c'est pas vrai, c'est faux. Hein? C'est un faux argument. C'est comme, en tout cas, il y a plein d'exemples de shubuhat qu'on pourrait donner, mais c'est comme par exemple les takfirin, par exemple les khawarij, quand ils disent, on est contre tous les gouvernements musulmans, ils sont tous des koufars. Tu les dis, mais sur quoi tu te bases pour dire que ces dirigeants-là sont des koufars? Ils te disent, ah mais Allah il dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire, ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Donc ils prennent ce verset. Toi tu entends ça, tu ne sais pas le tafsir, tu ne connais pas les paroles des salafs à propos de ce verset-là. Donc tu dis, ah c'est vrai. Hein? Tu penses que c'est vrai, parce que tu dis, ah, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il est un kafir. Donc eux, ils jugent par ci, par ça, par toutes sortes de lois. Donc ça veut dire que ce n'est pas des musulmans. Hein? Mais quand tu regardes, par exemple, dans l'explication, qu'est-ce que les salafs ont dit à propos de ce verset, et qu'est-ce que les ulama de tafsir ont expliqué à propos de ce verset, tu réalises et tu constates qu'ils mentionnent qu'il y a deux catégories par rapport à ce verset. Ceux qui rendent halal ce qui est haram et qui pensent que la loi une autre loi est meilleure que la loi d'Allah, ou qu'elle est égale à la loi d'Allah, ou supérieure à la loi d'Allah, ou que c'est permis de juger par une autre loi que celle d'Allah, dans toutes les affaires, eh bien, dans ce cas-là, ça, tu vas dire ça, c'est des kuffars. Et les ulama disent c'est des kuffars et ça, c'est un kuff akbar. Puis après, ils disent, mais si c'est quelqu'un qui suit sa passion et il reconnaît que ce qu'il fait, c'est haram, mais il le fait pour soit parce qu'il il suit sa passion, ou il a la foi faible, ou il est il a une shubha ou des choses comme ça, ceux-là, c'est pas des kuffars. Ou bien ils disent c'est un kuffr d'un kuffr. C'est-à-dire c'est un kufr mais qui ne fait pas sortir de la religion. C'est un péché que Allah a, ou que le prophète a appelé kufr, ou que Allah a appelé kufr, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Il y a plein d'exemples comme ça dans les paroles d'Allah et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. C'est-à-dire d'insulter le croyant, c'est une perversité. Et de le tuer, c'est un kufr. Est-ce que ça veut dire que celui qui tue un musulman, il est kafir? Un musulman qui tue un autre musulman, est-ce qu'il devient kafir? Il sort de l'islam? Non. C'est quoi la preuve qu'il ne sort pas de l'islam? Eh bien, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالحق بالقسط وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. S'il y a deux groupes de croyants, Allah les a appelés des croyants, ils se combattent, faites la réconciliation entre les deux. فإن بغت إحداهما على الأخرى. Si après la réconciliation, un des deux groupes transgresse contre l'autre. فقاتلوا التي تبغي. Combattez celle qui transgresse, hatta tafi'a ila amrillah, jusqu'à ce qu'elle revienne à l'ordre d'Allah. Fa in fa'at fa aslihu bil haqq wa aqsitu. Et si elle revient par la suite, faites la réconciliation en toute vérité et soyez juste. Allah aime ceux qui sont justes. Inna Allah yuhibbul muqsitin. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Les croyants ne sont que des frères. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Alors faites la réconciliation entre vous. Donc c'est pour dire que Allah a appelé les deux groupes de croyants qui se combattent des frères. Donc si c'était du kufr que un croyant tue un autre croyant, alors dans ce cas-là, ceux-là seraient des kuffars. Allah ne les aurait pas appelés des croyants. Et après, il dit « Innama al-mu'minuna ikhwa ». فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Donc tout ça c'est pour dire que le kufr qui est mentionné dans le hadith, c'est un kufr d'un kufr. C'est pas un kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Et c'est ça que les ulama de l'islam ont distingué. Ils ont dit, il y a un kufr majeur et un kufr mineur. Il y a un nifaq majeur et un nifaq mineur. Il y a un shirk majeur et un shirk mineur. Mais les khawarij, non. Pour eux, tout est un kufr akbar, tout est un shirk akbar, tout est un nifaq akbar. Et ils ne distinguent pas entre les deux. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Man attam ra'atahu fi duburiha faqad kafar. » Hein? Celui qui a des rapports avec sa femme par derrière, c'est-à-dire par l'anus, il a mécru. Est-ce que tu vas dire que celui qui fait ça, il devient kafir, il sort de l'islam? Hein? Non. Même celui qui pratique la sodomie dans l'islam, ça c'est un des grands péchés parmi les grands péchés, mais il ne sort pas de l'islam tant qu'il ne le rend pas halal. Donc comment tu vas dire de celui qui le fait avec une femme, il va sortir de l'islam? Non. S'il le rend halal, qu'est-ce qui est haram? Ça c'est kufr. Mais s'il fait le péché, comme par exemple quelqu'un qui boit de l'alcool, et il dit ça c'est haram, je le sais, mais que Allah me guide, que Allah me pardonne, j'ai la foi faible. Hein? Tu peux pas le déclarer kafir. C'est un mu'min, mais il a la foi faible. Hein, il a commis un péché. Mais celui qui dit, je bois pas d'alcool, mais l'alcool c'est halal. Si je voudrais, je pourrais en boire, sans problème. Si je veux, là je m'en vais au bar et puis je vais acheter une bouteille au complet. Mais je bois pas une goutte. Celui-là, il est kafir. Même s'il boit pas. Donc, c'est pas l'action seulement, c'est la croyance. Et même le kufr, le fait de le rendre halal, c'est plus grave que le fait de faire le péché lui-même et de le reconnaître, son interdiction. Donc, la question de juger selon la loi d'Allah, en même temps aussi, c'est pas juste pour le dirigeant. C'est pas juste par rapport à le fait, par exemple, que tu dis, il va juger, quand il y a quelqu'un qui vole, il va couper la main, quand quelqu'un va faire l'adultère, il va le lapider, ou ainsi de suite. Ça, c'est une partie de juger par la loi d'Allah. Mais le plus important encore de juger par la loi d'Allah dans la croyance, dans la aqida, entre les différentes sectes, pour savoir qui est sur la vérité et qui est sur le faux, de juger par la loi d'Allah en ce qui concerne tous les autres aspects de la vie, même des affaires dans la maison, au travail, dans ta vie personnelle. Ça concerne chaque individu musulman, pas seulement le responsable d'un État ou le chef d'un pays, ou bien des choses comme ça. Donc, les Hizbiyin, eux, ils sont forts à parler de ça, du fait de juger par la loi d'Allah. Ils sont forts à parler de ça parce qu'ils veulent uniquement des objectifs politiques, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Donc quand c'est la question de tawhid, d'aqid, ils parlent juste de takfir. Ils parlent juste des dirigeants et du pouvoir politique. Mais la aqid, al-manhaj, c'est pas grave. Tu peux être soufi, tu peux être ash'ari, tu peux être mu'tazili, tu peux avoir n'importe quelle aqid, ça les dérange le moins du monde. Ils n'ont aucun problème avec toi. Hein? Tu peux suivre la tariqa soufia que tu veux, être avec n'importe quel bid'ah, n'importe quel égarement, c'est pas grave. Mais dans les affaires de la dunya, si tu juges par autre que la loi d'Allah dans le gouvernement, ça c'est là que tu dois juger par la religion d'Allah seulement. Dans les autres affaires, c'est pas grave. Alors que celui qui fait une bid'ah, est-ce qu'il n'a pas légiférer dans la religion d'Allah? Il a rendu quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, il en fait une part de la religion. Quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, lui il dit, si tu le fais, tu vas être récompensé et Allah aime cette action-là. Alors que Il n'y a rien dans la religion qui mentionne cette chose-là. Ça, ce n'est pas de légiférer, ça. Hein? Même que c'est plus grave. Celui qui invente une loi, hein? Par exemple, les kuffars, quand ils inventent des lois, ils disent, celui qui vole, il va aller en prison pendant je ne sais pas combien de temps. Ils inventent une loi comme ça. Est-ce qu'ils disent, ça c'est au nom d'Allah, quand ils le font? Non. Ils disent, ça c'est notre loi, c'est au nom du Parlement, au nom de la reine, ou je ne sais pas quoi, puis c'est ça qu'on a décidé. Tandis que le Moubtadi', il invente une loi dans la religion, puis il l'attribue à Allah et à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Lequel des deux qui est plus grave? Le deuxième, celui qui attribue à Allah et à son messager. Hein? Donc, les gens aujourd'hui, ils parlent de takfir dans un aspect qui fait leur affaire parce qu'ils veulent juste le pouvoir politique. Là, ils font le takfir en se basant là-dessus. Mais quand c'est les questions, les fondements de la religion, de la aqidah et de la pratique religieuse, et que des gens parmi eux, parmi leurs membres, et même parfois leurs fondateurs faisaient partie de ces gens de bid'a, comme Hassan al-Banna par exemple, qui faisait partie des soufis, des asha'ira, et qui avait plein de bid'a, eh bien, lui c'est correct. Il a le droit de légiférer dans la religion ou de suivre des législations qui contredisent la parole d'Allah. De même que Sayyid Qutb, la même chose. Hein, dans la religion, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il peut croire en d'autres, musharri'in, en dehors d'Allah. Mais dans les autres choses, ça c'est grave. Donc ils ont deux poids, deux mesures, et la seule règle pour eux, c'est leur passion. Nasallallahu al-afiya. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc que leurs arguments, c'est des arguments faibles. Et l'affaire, c'est que parfois ils ont une belle façon de s'exprimer. Ils parlent bien. Donc quand les gens les entendent, ils sont facilement impressionnés par ce qu'ils disent. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les munafiqoun dans le verset 4, dans surat al-munafiqoun, il dit « Wa in yaqulu tasma' li qawlihim ». C'est-à-dire, si ils disent quelque chose, tu les écoutes, parce qu'ils parlent bien. « Wa fikum samma'una lahum ». Le verset 47, dans surat al-Tawbah, il y a parmi vous des gens qui les écoutent. C'est-à-dire, vous leur prêtez l'oreille, hein, et vous croyez en ce qu'ils disent. Donc c'est là le danger des munafiqoun. Parce que parmi les musulmans, il y en a qui les écoutent. Ils écoutent leur shubuhat et ils commencent à croire en ce qu'ils disent. Et après, il dit, donc ces gens-là, ils jettent des shubuhat avec des paroles enjolivées. Hein, et ils ont une façon de parler qui est attirante et plaisante, qui trompe beaucoup les gens, pour arriver à essayer de faire convaincre leurs opposants. Alors que c'est des gens qui prétendent à l'islam et ils trompent avec ces shubuhat et avec leurs beaux discours, ils trompent les croyants. Et c'est pour ça qu'ils doivent être combattus par la langue et on ne doit pas les laisser avec leurs ambiguïtés et leurs shubuhat et leurs fausses paroles pour pas qu'ils affectent les croyants qui ont une foi faible et les ignorants parmi les musulmans. Et il faut obligatoirement réfuter leurs ambiguïtés, l'ambiguïté et les doutes lancés par les munafiqines, et dévoiler leurs ruses, hein? Comme Allah les a dévoilés dans le Coran et il les a humiliés. Si vous regardez dans surat Tawbah, vous allez voir plein de versets dans lesquels Allah dévoile les ruses et les complots des kuffars et des munafiqines, en particulier les munafiqines. Donc on va s'arrêter ici, hein, pour aujourd'hui, puis on continuera inshallah au dernier cours, au prochain cours, pardon. 27, 28, 29. J'ai pris un peu plus de temps. Non, ouais, vas-y, fais-le. Subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.